vous suit.
Voici les titres du journal.
L'offre de ski gratuite au GIET pourrait bientôt prendre fin pour des raisons financières. L'une des solutions envisagées serait de louer les lieux pour des événements ponctuels et privés. La place de l'Oriental à Vevey dans le quartier Est-Vevezon fait peau neuve. Après 9 mois de travaux, les riverains vont pouvoir profiter d'un lieu plus vert qui favorisera la mobilité douce. L'abolition de la valeur locative fait du surplace. À peine la discussion autour de l'élimination de l'impôt sur la valeur locative pour les propriétaires relancée au Conseil national qu'elle est à nouveau bloquée et renvoyée en commission. Les femmes et leur place dans le sport étaient au centre du 4e forum Sport et Communes hier à Montreux. Et en cyclisme, les 3 jours d'aigle vont à nouveau rassembler certains des meilleurs pistards de la planète.
Pour la météo, encore des nuages et de la pluie pour aujourd'hui et théoriquement, mais selon les prévisions de Météo Suisse, on devrait revoir le retour du soleil. Demain, météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Valérie Blom. Bonjour Valérie.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Skier gratuitement au GIET, cela ne pourrait être plus qu'un lointain souvenir. Depuis 15 ans, la petite station située sur les Hauts-de-Montée accueille environ 200 personnes par week-end chaque hiver. Deux remontées sont mises à disposition des visiteurs, pour la plupart des enfants qui connaissent leurs premières expériences sur les lattes. Seulement, tout cela pourrait prendre fin, la faute à la situation budgétaire de TéléGIET qui avait déjà forcé la fermeture des installations l'an dernier. Alain Bosco, responsable du site.
TéléGIET, financièrement, ça se porte de manière catastrophique, si on veut parler clairement. Non, c'est clairement quelque chose qui n'est pas du tout rentable. Mais ça, on le savait. Hein. Moi, j'ouvre ces téléskis gratuitement depuis 15 ans. Le calcul est vite fait. Il y a 50 000 francs de coûts fixes, 30 000 francs d'exploitation. Moi, je ne compte pas mon temps. Donc, voilà, c'est en 15 ans, ça fait beaucoup d'argent. Nous, on reçoit des aides un petit peu, les communes, la Raiffeisen, la Fanza, on est un peu aidés à hauteur, plus ou moins, de 30-40 000 francs par année. Donc après, vous faites le calcul avec ce qui la différence avec 80. Ça veut dire que c'est entre... c'est 40 000 francs qu'on doit mettre de notre poche. Fois 15, ça vous fait une jolie maison.
Pour éviter cette situation, les propriétaires recherchent actuellement des sources de financement. Si rien ne débouche, ce sera la fin du format actuel de TéléGIET. Alain Bosco.
Nous, on aimerait être à zéro. Moi, je ne compte pas mon temps. Je ne vais pas faire de l'argent avec ces téléskis, mais au moins que ça ne me coûte rien. Et si on arrive à l'équilibre, alors on va continuer à ouvrir. Sinon, on va peut-être se diriger sur une ouverture privée pour des événements, des entreprises. On a beaucoup de demandes dans ce sens-là. Nous, on aimerait pouvoir continuer à ouvrir pour tout le monde parce qu'on a beaucoup de demandes. Moi, là, je reçois 15 demandes par jour maintenant qui me demandent est-ce que vous allez ouvrir et tout ça. Donc, on va solliciter un petit peu les personnes autour de nous, un petit peu voir s'il y a des gens qui sont intéressés, qui n'hésitent pas. Et puis, on fera le point d'ici un mois.
Un sujet préparé par Thierry Nicolet.
Le quartier de l'Est Vevezon fait peau neuve.
Après plus de 9 mois de travaux, le réaménagement de la place de l'Oriental va bientôt aboutir. Le quartier sera dès lors plus silencieux grâce à la pose d'un revêtement phono-absorbant sur la chaussée. L'arrêt de bus entre deux villes sera également réadapté pour être en conformité avec la loi sur l'égalité pour les personnes en situation de handicap. Pour le municipal du service urbanisme et mobilité de Vevey, la fin du chantier est synonyme d'apaisement. Antoine Dormand.
C'est surtout un soulagement de voir les travaux se terminer tranquillement, parce que c'est vrai que ces 8 mois de travaux, c'était quand même difficile. Hein. Il fallait pouvoir assurer le passage de la ligne de bus 201, donc c'était aussi très contraignant en termes de planification de chantier, bruyant, etc. Donc je crois que c'est un soulagement surtout pour tout le monde de voir la fin de ces travaux, et puis on espère très prochainement que ces espaces vont pouvoir être appropriables aussi.
Comme l'avaient souhaité les riverains dans le cadre d'une démarche participative, le lieu sera donc plus vert et favorisera la mobilité douce. On retrouve Antoine Dormand.
Je suis surtout très heureux de voir que ce quartier de Vevey-Est va pouvoir bénéficier d'un nouvel aménagement d'espace public. C'est une très bonne nouvelle pour le quartier, pour les commerçants, les commerçantes, et puis également aussi pour les différentes affectations qui sont au rez-de-chaussée et qui vont pouvoir se déployer sur cet espace public nouvellement réaménagé.
C'est donc tout le quartier est de Vevey qui bénéficiera d'une nouvelle dynamique avec la fin de ce chantier. Le bar, le Bout du Monde et le théâtre de l'Oriental vont notamment pouvoir pérenniser leurs synergies déjà existantes. Un sujet signé Julie Gay. La deuxième vaccination de rappel contre le Covid-19 est possible dès le 10 octobre en Valais. L'ensemble de la population des 16 ans pourra en bénéficier gratuitement avec une priorité accordée aux personnes vulnérables. Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui dans les centres de Brigue, Sion, Martigny ou Colombey. Elles se feront en ligne ou via la hotline cantonale au 058 433 0144. Les lacs des barrages suisses sont actuellement remplis à hauteur de 82,2% selon les dernières données de l'Office fédéral de l'énergie. Leur niveau se situe ainsi 3,5 points de pourcentage en dessous de la moyenne de la même période de ces 20 dernières années. Selon l'Office fédéral de la statistique, la Suisse a consommé l'an dernier 58 113 gigawattheures d'électricité. Si tous les barrages sont pleins, le pays dispose d'une réserve totale de 8 865 gigawattheures, soit environ 15% de ses besoins annuels en électricité. Et si la consommation reste la même, la Suisse pourrait, avec des barrages pleins, être approvisionnée en électricité durant environ 3 semaines.
Le dossier parlementaire de supprimer l'impôt sur la valeur locative pour les propriétaires n'avance pas.
Le Conseil national a bien accepté d'entrer en matière ce matin sur le projet complexe du Conseil des États, mais une majorité d'élus a ensuite préféré le renvoyer en commission pour une nouvelle analyse approfondie. Des désaccords subsistent entre la gauche et la droite sur plusieurs aspects. Les explications du conseiller national PLR Olivier Feller.
Il y a une majorité du Parlement qui veut supprimer l'impôt sur la valeur locative, un impôt qui est injuste puisqu'il taxe un revenu fictif. Mais il y a eu un renvoi que je regrette en commission parce que comment aménager les déductions qui existent actuellement, supprimer purement et simplement toutes les déductions, cela peut conduire à des difficultés pour les jeunes qui souhaitent acquérir un logement ou pour les propriétaires qui souhaitent rénover sur le plan énergétique leur bâtiment. Il y a également des questions de recettes fiscales. Certains ont peur de voir les recettes fiscales diminuer, notamment les directeurs cantonaux des finances.
Mais pour la gauche, une abolition, une réduction de cette valeur locative pose problème. Cédric Vermouth, conseiller national socialiste.
Pour le moment, la majorité de la commission d'économie du national a proposé un projet qui aurait coûté 4 milliards à la Confédération. Elle est comptant impensable dans la situation actuelle où nous la trouvons. Les comptants étaient contre, tout le monde était contre. Ça n'aurait jamais passé une votation populaire. C'était clair qu'il fallait retravailler si un jour on voudrait trouver une solution. En réalité, c'est assez difficile de changer le système sans avoir des nouvelles perdants. Par exemple, les jeunes ou les finances de la Confédération ou les locataires qui, eux, de toute façon, le sont moins privilégiés déjà aujourd'hui que les propriétaires. On va réessayer encore une fois. Je vous cache pas que je n'ai pas énormément d'espoir qu'on trouve une solution, mais le travail parlementaire, c'est essayer, réessayer et réessayer.
Des propos recueillis par notre correspondant parlementaire Frédéric Neja-Toulamy. Dans le système actuel de l'imposition, la valeur locative est calculée selon le bénéfice théorique que le propriétaire tirerait de la location de sa maison, et ce même s'il y habite. En contrepartie, les intérêts de la dette hypothécaire et les frais d'entretien et de rénovation de l'immeuble peuvent être déduits.
Fini les bulletins de versement, il faudra impérativement utiliser les factures à code QR pour les paiements à partir de ce samedi.
Introduits progressivement depuis juillet 2020, ces codes visent à faciliter l'émission de factures et à simplifier le règlement. Plus besoin donc, pour peu qu'on arrive à scanner la facture QR, de saisir manuellement les données comme l'interminable numéro de référence. Toutes les informations nécessaires sont contenues automatiquement, de quoi prévenir des erreurs. Cependant, pour les personnes ne voulant ou ne pouvant pas scanner un paiement bancaire traditionnel via la saisie manuelle de l'IBAN et du numéro de référence, ainsi que du montant et du bénéficiaire, reste possible. Les clients pourront aussi toujours se munir de leur facture QR et continuer à se rendre au guichet postal ou de la banque, mais au plus aucune facture ne pourra être émise sans le fameux code. À l'étranger, au Venezuela, le corps d'un jeune homme emporté par le courant d'une rivière en crue et retrouvé hier porte à 10 morts et 3 disparus, le bilan des pluies torrentielles. Par ailleurs, celles-ci abattent sur le pays depuis 2 semaines et par ailleurs considéré comme extrêmement violent. L'ouragan Ian a touché terre hier après-midi en Floride selon le Centre national des ouragans américains. Il a déjà provoqué des inondations catastrophiques en mer. Les mauvaises conditions ont fait chavirer un bateau transportant des migrants et les gardes-côtes recherchent encore 20 personnes portées disparues, 3 ayant été sauvés, 4 autres étant parvenus à nager jusqu'au rivage.
La junte birmane a condamné aujourd'hui Aung San Suu Kyi à 3 ans de prison.
Ceci pour violation de la loi sur les secrets officiels, a déclaré à l'AFP une source proche du dossier. Cette peine s'ajoute aux 20 ans de prison déjà prononcés contre elle pour différents motifs. Le tribunal a également condamné son ex-conseiller, l'économiste australien Sean Turnell, ainsi que 3 autres prévenus à la même peine selon la même source. Une quatrième fuite a été identifiée en mer Baltique au-dessus des gazoducs Nord Stream, visée par un sabotage présumé selon des gardes-côtes suédois. Jusqu'ici, les autorités des deux pays avaient fait état d'une fuite côté suédois et de deux fuites côté danois. Il y a deux fuites côté suédois et deux fuites côté danois, a déclaré aujourd'hui à l'agence France Presse un responsable de l'autorité suédoise. Précisons que les deux fuites côté suédois se trouvent à proximité l'une de l'autre. La question des inégalités entre hommes et femmes prend toujours plus de place dans le sport. Pour sa quatrième édition, le forum Sport et Communes organisé hier à Montreux s'est concentré sur cette thématique. Quelle place occupent les femmes dans le sport? 5 intervenants se sont penchés sur cette vaste question. Il ressort notamment qu'en Suisse, il y a autant de sportives que de sportifs. Mais leur manière de pratiquer une activité physique n'est pas la même. Par exemple, les hommes ont plus facilement tendance à intégrer un club ou une structure associative. Ils y sont ainsi surreprésentés. Un constat également valable dans les organes de gouvernance. Pour y remédier, le Parlement helvétique planche sur l'introduction d'un quota de 40% de femmes parmi les dirigeants des fédérations sportives nationales. Sonia Félix, directrice adjointe de l'Office fédéral du sport, est revenue sur cette mesure.
C'est certainement un signe de la politique. On a la volonté qu'on voit des pas en avant. Mais le sport en Suisse est dépendant du bénévolat. Donc là aussi, il faut faire attention qu'on ne détruit pas les structures. On fait beaucoup de choses très bien dans le sport. Donc il faut faire attention à la balance des choses. Un quota, c'est vraiment un signe fort et il faut le respecter. Et ça pousse peut-être un peu plus qu'on a poussé jusqu'à aujourd'hui.
Si ce système de quotas n'a pas encore été introduit, certaines femmes ont ouvert la voie. Ancienne gardienne de l'équipe de Suisse féminine de hockey sur glace, Florence Schelling fait partie de ces pionnières. En 2020, la Zurichoise a été nommée directrice sportive du CP Berne. Une grande première pour une femme en Suisse, mais l'expérience a tourné court. En retire-t-elle malgré tout de la fierté? La réponse de Florence Schelling.
Une fierté, je dirais non. Parce que pour moi, c'était un job, c'était une position. Et puis pas autant, c'est moi comme femme qui prends cette position. C'était vraiment, j'ai voulu prendre ces positions, j'ai voulu faire un bon travail. Et puis j'ai pas trop regardé sur le féminin, masculin truc. C'était vraiment le travail. Et puis finalement, c'était vraiment la média aussi qui m'a approchée à ce thème. Ah, mais je suis une femme, je suis jeune et tout ça. Donc pour moi, forcément, j'ai pas pensé à ça du tout. En même temps, c'était ça qui m'a suivi pendant une année.
Des propos recueillis par Julien Traxel. La prochaine édition du Forum Sport et Communes est d'ores et déjà prévue dans 2 ans, à nouveau à Montreux. La thématique n'a pas encore été dévoilée.
L'expérience et la jeunesse se sont réunies au Centre mondial du cyclisme en cette fin de semaine.
Les 3 jours d'aigle se tiennent dès aujourd'hui et jusqu'à samedi. Pour sa 18e édition, l'épreuve Le Chablaisienne accueillera à nouveau un tableau relevé et international avec pour objectif associer les juniors aux coureurs les plus aguerris. Une expérience en or pour les futurs cadors de Suisse et une répétition générale avant les mondiaux pour les athlètes professionnels. Des éléments qui contribuent au succès de l'épreuve, mais pas seulement. Organisée dans une région où le vélo occupe une grande place du calendrier, la manifestation en profite, comme l'explique Gaëlle Souter, membre du comité d'organisation des 3 jours d'aigle.
Oui, alors tout à fait, et on voit un grand travail des autorités pour remettre vraiment le cyclisme au centre des activités dans la région. Et on profite de ce beau bâtiment avec des initiations, on a des entraînements pour les jeunes coureurs licenciés, pour les coureurs plus expérimentés aussi. Donc on essaye au maximum de développer ce sport qui est encore assez peu connu en effet en Suisse romande, mais qui ne demande qu'à se voir plus développé.
Un petit mot sur les Suisses, hein. Plusieurs futurs champions du monde vont rouler sur cet anneau du Centre mondial du cyclisme durant les 3 jours d'aigle. Qu'en est-il des Suisses? Est-ce que il y en aura quelques-uns qui pourront jouer les médailles à Paris et qui seront ici à Aigle durant ces 3 jours?
On espère, c'est vrai que c'est des courses qui sont extrêmement relevées, le niveau global est très très élevé. On a la chance d'avoir un excellent niveau de Madison qui est l'une des disciplines phares de ces 3 jours d'aigle, une course en duo avec des relais à la main à plus de 50 km/h qui est très impressionnant. Et on a une grande école de cette discipline ici en Suisse avec des bons coureurs et en effet on a des chances de 2 médailles ici déjà premièrement à Aigle, mais aussi au championnat du monde. On espère une belle présentation des coureurs. Ils seront tous là pendant ces 3 jours d'Aigle et ce sera l'occasion de pouvoir se mettre en confiance avant l'échéance mi-octobre.
Des propos recueillis par Julien Traxel. Le vélodrome du Centre mondial du cyclisme accueille donc la 18e édition des Trois Jours d'Aigle dès aujourd'hui jusqu'à samedi. Un plateau international s'affrontera mêlant jeunesse et expérience. Et on termine avec cette nouvelle sur les clubs suisses de football qui ont reçu de l'argent en trop durant la pandémie, qui doivent rembourser la Confédération. Seuls les montants versés en trop en 2021 sont toutefois exigés d'un montant estimé à 4 millions de francs. L'Office fédéral du sport a reconnu cet été déjà que des chevauchements se sont produits dans les versements effectués à plusieurs clubs suisses de l'élite, sans en donner les noms.
L'actu en continu, radiochablais.ca.